Yep, already.
Bonjour à toutes et à tous. François Bégaudeau est un écrivain, critique littéraire, acteur et scénariste français né en 1971. Depuis 2003, il a publié 9 romans aux éditions Verticales. En 2008, son roman Entre les murs est adapté au cinéma par Laurent Cantet. Il reçoit la Palme d'Or à Cannes. À part ça, Bégaudeau est depuis toujours passionné de football et de musique. Il fut le chanteur du groupe rock-punk Zabriskie Point dans les années 90. Bégaudeau est aussi critique littéraire et de cinéma, notamment dans le magazine Transfuge. En 2008, les éditions Bréal lui passent une commande pour compléter sa collection d'anti-manuels. On trouve déjà chez Bréal l'anti-manuel de philosophie de Michel Onfray, l'anti-manuel de politique d'Arnaud Montebourg, l'anti-manuel de psychologie de Serge Éphèse, l'anti-manuel d'économie de Bernard Maris. Bégaudeau, lui, écrit l'anti-manuel de littérature. Une entreprise brillante et potache de démystification ou de démythification de la littérature. L'écrivain flingue tout esprit de sérieux avec beaucoup d'érudition et de distance, bref, de talent. Sur la couverture de son anti-manuel, il y a un chat, circonspect, avec une paire de palmes aux pieds et une bouée autour de la taille. T'étais-tu fixé une direction particulière en concevant l'anti-manuel ? Lui demande une journaliste. Réponse de l'intéressé. L'enjeu était de parler de littérature en étant précis, mais sans être solennel. Je pratique des domaines qui sont fondamentalement aristocratiques. La littérature en France se vit comme une élite pleine de pose. Je suis le produit de cela, par ma formation, par le fait que je sois publié par Verticale, maison d'édition qui est un peu le haut de gamme de la littérature. En France, il y a comme une difficulté à occuper les lieux aristocratiques avec une fibre démocratique. Et l'anti-manuel est un geste de démocrate, de pédagogie aussi. Il faut décomplexer les gens et les lecteurs devant cet objet extrêmement monumental qu'est la littérature. L'anti-manuel est au cœur de cette problématique. Extrait de l'anti-manuel de littérature de François Bégaudeau. Que fait l'écrivain quand il n'écrit pas ? Il déjeune d'un steak, enseigne le français, anime un ciné-club, va à la piscine, souffre, désespère de son époque, écoute la matinale de France Inter. Mais surtout, il doute. Pas plus tard qu'hier, filant rejoindre Sébastien, je rencontre un écrivain près du métro Saint-Placide. Je lui demande ce qu'il fait là. Il répond « Je doute ». Doute-t-il de lui-même, de son talent, de la qualité de son roman en gestation sur un frère jumeau mort-né ? Ou s'agit-il d'un doute plus englobant, d'un doute de chez doute, d'un doute de niveau 8 sur l'échelle du scepticisme ? En me quittant, l'écrivain de Saint-Placide a murmuré qu'il avait beaucoup de questions et pas de réponses. J'avais déjà entendu un truc semblable dans la bouche d'un de ses pairs près du métro Saint-Sulpice. On écrit avec des questions, pas avec des réponses. C'était un 17 juin, la veille du 18. Une chose dont on se doit d'informer le béotien, a fortiori s'il habite en province, le protocole de remise du diplôme d'écrivain en Sorbonne exige que le lauréat s'agenouille et promette au jury de clamer une fois par mois en public que l'écrit ne prodigue aucune vérité. Au contraire. Formule à réciter mot pour mot, engageant que ce « au contraire » épatera le gogo. Les mois passent. Le jeune adoubé publie 3 récits d'enfance écorchés et très vite la profession de non-foi et de non-savoir lui devient un tic. Parfois au café des poètes, près du cimetière, on le voit s'agiter, quelque chose le démange, et bientôt il ne résiste plus. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Autre formule entendue au café des lecteurs, près du cimetière. Cet écrivain, il a une langue. Et l'interlocuteur d'Opiné, ah oui, il a une langue, c'est indéniable. Pourquoi alors si peu d'écrivains parmi les caméléons? Parce qu'il s'agit moins d'avoir la langue bien pendue que d'une torsion subjective du babil commun. Une langue, c'est une saisie singulière de la langue. Comment savoir si un écrivain a une langue? Mystère. Business très opaque, avec pas mal d'entreprises lexicales sous-traitantes, du genre « c'est écrit ». Qu'est-ce que t'as pensé de ce roman? Ah, rien à dire, c'est écrit. Sommé de s'expliquer, le lecteur du café des lecteurs, près du cimetière, devient tout rouge, racle son fond de tasse d'une cuillère penaude, tourne cette fois la langue dans sa bouche, fait un nœud, se retrouve muet. La conversation meurt. On est comme des cons avec cette notion sur les bras. Un signe distinctif quand même du texte doté d'une langue, il est facilement pastichable. En cela, le pastiche est un hommage à la singularité du modèle. À moins qu'il vaille comme mise en garde contre la caricature de lui-même qu'un auteur est en passe de devenir. Marguerite Duras fut beaucoup pastichée par les comiques. On donna des leçons de dur à langue comme on enseigne l'espagnol ou le castillan. Non pas « Je pars chercher du pain, je reviens dans une demi-heure. » Mais partir du pain, aller chercher, partir pour aller chercher du pain, partir et ne plus revenir, ou plutôt si revenir, pas dans une heure, la moitié d'une, faire les choses à moitié, voilà, vivre à moitié et mourir complètement. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Faut-il être malheureux pour écrire? Quand l'écrivain a une boule dans le ventre, il se met vite au travail avant qu'elle disparaisse. La boule annonce peut-être une crise de foi, mais l'écrivain préfère l'interpréter comme une angoisse dont son écrit traquera l'origine probablement préadolescente, voire prénatale. En sentinelle du temple rétrospectif, lui apparaît alors un saule pleureur. Le livre s'appellera « Les larmes du saule ». L'écrivain est-il malheureux? Aux yeux de notre époque pleurnicheuse, le partenariat entre malheur et écriture semble scellé depuis l'origine du malheur et de l'écriture, jumeaux agglutinés dans l'utérus de la déesse des blessures. Pourtant, c'est une construction culturelle datée, comme disent les sociologues. Datée de quand? Peut-être des jérémiades romantiques, préfigurées par le génial géniard Jean-Jacques, précédé par le tristoun Dubelet. Et mon cœur, qui saoulait être maître de soi, essaire de mille mots et regrets qui m'ennuient. Lui-même précédé de quelques élégiaques malheureuses en amour et heureux au jeu de la rime. À moins que les noces entre littérature et larmes ne soient célébrées par les poètes maudits, assommés par le spleen programmatique des fleurs du mal. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Que sa poésie soit sinistrée par une mélancolie pleine d'adjectifs antéposés, induit-il que Baudelaire ait été lui-même sinistre? Rien n'est moins sûr. Comme on l'a effleuré précédemment, il se peut que la situation même d'écrire vous incline à la tristesse. Solitude de la chambre de bonne, où ne manque qu'une bonne pour laisser apercevoir un bout de string en époustant une table basse. Les livres sont-ils tous noirs? Foin de psychologie, le nain joyeux peut accoucher de livres absolument sinistres. Le nain sinistre accouchait de livres absolument joyeux. Tout est question de choix de tonalité. Il se trouve que la tonalité dominante est depuis 2 siècles mélancolique. Quel artiste ne se dit pas mélancolique aujourd'hui ? On a entrevu pourquoi. Ajoutons 2 raisons. 1. On pourrait facilement saper le cliché qui veut que le bonheur n'ait pas d'histoire. Quelle histoire, au contraire, un couple durable ou une amitié loyale ? Reconnaissons quand même que le ratage ouvre plus de possibilités narratives et expressives. La raison du règne du sombre est d'abord technique. À tout récit, il faut que les formalistes russes appellent un élément perturbateur et qu'on appellera un truc qui fout la merde. Les trains réels arriveraient-ils tous à l'heure ? Les fictions continueraient à les faire dérailler. 2. Auteurs et auteurs auraient trop peur de passer pour des benêts en prodiguant des happy hands et des c'est beau la vie qu'une millénaire répartition sociale des humeurs réserve à la basse culture. Roman de Barbara Cartland ou chanson de Carlos Papayou Lélé au premier chef. En noircissant le tableau de la vie, vous obtenez votre diplôme d'implacable clairvoyance. Vous démontrez avoir bien compris qu'on allait tous mourir, que la flèche clochette n'existe pas. Et au passage que vous n'êtes plus ce petit bourgeois nourri aux barquettes d'abricots de l'aumônerie. Alors, vous distillez quelques suicides dans votre récit, gageant que ce faisant, vous acquérerez un peu de la splendeur tragique de Madame Bovary et Mrs. Dalloway et des livres qui portent leur nom.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant.
À quoi sert la littérature ? Grande question, à laquelle il serait sage de répondre à rien. Sert-elle au lecteur ? On peut supposer que oui, sans quoi il ne dépenserait pas autant de fric en librairie. À l'inverse, le grand nombre de non-acheteurs de livres tend à démontrer que d'un point de vue strictement biologique, on peut vivre sans littérature. Un lecteur objectera que ça lui est indispensable, mais préférerait-il qu'on le prive de sexe ou de livres, de coupe du monde de foot ou de recueil de poèmes ? Préférait-il continuer à lire, mais devoir pour cela boire chaque jour un verre de pu jusqu'à sa mort, ou être privé de lecture, mais affranchi du pu quotidien ? Que chacun se pose la question et cesse de faire le malin. Sans donc être indispensable, la littérature peut aider à passer le temps, écourter la durée subjective des trajets de RER, ranger les marque-pages, caler une table bancale, signifier sans parler à son compagnon ou à sa compagne de lit que non, pas ce soir, se poser à une terrasse de café et se planquer derrière le livre pour mater le cul des filles. Densifier sa vie émotionnelle et cérébrale. Déplier la langue en nous, élargir l'être, jouir du meilleur et du pire, jouir de ce qui est, s'éduquer par les livres à vouloir ce qui est, voler un peu de la puissance du feu, apprendre à rire de la flamme qui va brûler vos oreilles, car vous vous êtes trop approchés, rire en effet comme si c'était une plume d'oie sur votre plante de pied. Rire à en exploser, à se lever du lit ou du bureau, à vouloir danser, danser et faire durer la boum jusqu'à pénurie de coca. Y a-t-il une vie après la littérature ? À supposer que les livres meurent, et la littérature a fortiori, que tout ce beau matos s'épuise dans les 10, 20, 30 années à venir, supplanté par le bulldozer technologique et le lobby bouddhiste, est-ce si grave ? Il est arrivé à de grands lecteurs de délaisser leur passion prétendument inextinguible pour s'adonner à la pêche à la truite. Nul n'en est mort, que des truites. Peut-on être et avoir été écrivain ? On a connu aussi des écrivains qui cessaient d'écrire et n'en mouraient pas. Peu nombreux, il faut le reconnaître. Peu d'exemples d'auteurs qui, trouvant vraiment lamentable leur dernier livre ou vain d'en écrire, rachètent un débit de boisson dans le Cotentin ou l'Arkansas. À croire qu'on y prend goût à cette connerie. À croire surtout, s'il était encore nécessaire de s'en convaincre, qu'écrire ne cause pas des maux de ventre ou d'âme si insupportables. Saluons donc les rares démissionnaires. Salinger, Walser, Wilde, pas chez nous, Chamfort, qui ne se remit jamais du succès de Manureva, Paul Lou Sulitzer, mais son accident cérébral l'y aida bien, Crébillon, fils, mais sa mort l'y aida bien aussi, Denis Boulard, mais le refus de 4 manuscrits l'y aida bien. Sans cela, les écrivains s'accrochent comme des moules au rocher de l'écriture, comme à son 7e mandat un maire octogénaire. Ne pas négliger quand même les écrivains suicidés. Comme il se doit, la mode se développe après la bascule romantique, notamment après que l'Allemagne de la fin du XVIIIe eut vu fleurir, puis dûment périr, de multiples clones du jeune Werther. Ça ne s'arrêtera plus. Rien qu'au XXe siècle, 3 écrivains ont mis fin à leur jour. Pavès, Zweig, Gary. Et encore, sans doute, y en a-t-il eu davantage, car une grande proportion de suicidés néglige de faire une déposition ou nie l'évidence. Hemingway ne nous fera pas croire qu'une balle s'est retrouvée dans son crâne suite à une corrida dramatique. Le taureau n'a pas droit aux armes à feu. Vu le nombre très réduit de désertions, la thèse de la nécessité revient en force. Un truc du genre « l'écrivain ne cesse jamais d'écrire parce qu'écrire engage tout son être, parce qu'écrire lui est vital ». J'en connais qui ne se gêneraient pas pour pérorer de la sorte. Mais je sais comment leur rabattre le caquet. Je sais la fausse note qui ruinera le concerto pour trompette. Terriblement fausse, terriblement pas discrète, coup de clairon rigolard d'un bidasse éméché. Rimbaud. Oui, c'est bien cela. Vous avez deviné, vous êtes cultivé, vous avez lu des livres. Le clairon s'appelle Arthur. Il fut poète, puis marchand. Poète 2 ans, marchand 2 décennies. On voit où voilà sa préférence. Renonçant à la verticalité poétique, Rimbaud se dissémine dans l'horizontalité des calculs de commerce et d'influence. L'immanence terre-à-terre des besoins et des manœuvres pour les satisfaire, faim, soif, cri, danse, 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 danse. La faim et la danse, sur le même plan, parce qu'enrôlés à parts égales dans les affaires du corps. le paysan rendu au sol, l'est aussi et d'abord à son corps, à sa propre unité non séparée. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Ce sont sans doute les derniers mots écrits par Rimbaud poète, alors qu'il ne l'est plus et s'est remis entre les mains favorablement sales de la vie. Chers auditeurs, merci. Encore heureux sera rediffusé dimanche à 14h comme d'habitude et toujours disponible en podcast sur le site de Radio B. La prochaine fois, je vous parlerai d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick et de Bartleby. Vous savez, Bartleby, ce modeste employé qui ne veut rien faire et répond invariablement à son chef « I would prefer not to », phrase que l'on traduit par « je préférerais pas » ou « j'aimerais mieux pas » ou encore « j'aimerais autant pas ». Bégodeau propose dans son anti-manuel « je me tâte » ou « je te rappelle dans une heure ». Quelle que soit la traduction, sérieuse ou potache, Bartleby, c'est subtil. Bartleby, c'est le silence, plus une phrase, « I would prefer not to ». C'est la fuite, comme stratégie de lutte, comme résistance, l'inquiétante drôlerie de la littérature, de l'absurde, éminemment subversive. À très bientôt sur Radio B.